Coucou, c'est Martine. Merci de choisir Radio Plus pour accompagner votre début de semaine. Jean de la Bruyère disait « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Chaque lundi, nous déclinerons ensemble ce mot « temps » à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio. À chacun d'entre vous, je dis bonjour en vous souhaitant bien sûr une très très bonne journée, c'est-à-dire peut-être quelques paroles sages qui vous mettraient le moral au beau fixe, ou tenez une affirmation positive qui vous aiderait à vous rappeler que votre vie est magique.
Du haut de ma tour, quand sous mes yeux tout balance, là dans ce décor, tant de lumière insolente, au tout premier rang, sur une scène insolite, brille un feu d'artifice, dans cette nuit magique. Et du haut de ma tour, quand la ville valse la cadence, en technicolore, la foule et les bruits me hantent. Le monde me surprend. Là-haut dans le ciel, j'assiste, caché dans les coulisses, au spectacle magique. C'est le théâtre de la vie. Chacun joue un rôle, une comédie. Manège qui tourne et nous remplit d'amour, de drame et de fantaisie. Du haut de ma tour, sur un tapis de nuages, derrière le rideau, au matin la vie reprend. La brume, les néons réveillent nos destinées dans les draps de satin, loin des rêves magiques. Du haut de ma tour, quand le temps est un mirage, j'y va crescendo comme un film sur un écran. Superbe illusion, tu planes sur mes années et j'attends le prochain passage de vie magique. C'est le théâtre de la vie. Chacun joue un rôle, une comédie. Manège qui tourne et nous remplit d'amour, de drame et de fantaisie. Thank you.
superbe illusion. Tu flânes sur les années et j'attends le prochain passage de vie magique. Superbe illusion, tu flânes sur mes années et j'attends le prochain passage de vie magique. Du haut de ma tour.
Sacha Distel sur Radio Plus. Alors dans l'air du temps, aujourd'hui avec Jean-Louis Ouatté, président de l'Étrême Nature, nous terminerons le chapitre Amazonie parce que ce pays ne souffre pas seulement des incendies, de l'agriculture intensive, de l'extraction minière et pétrolière ou des occupations illégales de territoire. La pandémie de Covid-19 est venue aggraver tous les maux que subit l'Amazonie, fragilisant ses premiers défenseurs, les indigènes, et détournant l'attention mondiale pendant que des feux reprennent de plus belle. Et oui, sale temps sur la planète. Donc, à partir de 9h15, on jardinera encore bio, bien sûr, avec Bertrand Trinel, président de l'Association des paysages et jardins des hommes. Bertrand Trinel, pas du tout avare, comme vous le savez, de bons conseils. Et puis, c'est aujourd'hui la journée mondiale contre la douleur. Le traitement de la douleur et les soins palliatifs font partie intégrante du droit à jouir d'une bonne santé, estime l'OMS. Et nous écouterons donc le docteur Guy de Regnaucourt nous parler de cette prise en charge.
Parce qu'on est souffrant, on ne meurt pas parce qu'on est mourant. Soyons reconnaissants, car si on meurt, c'est parce qu'on est vivant. On ne meurt pas parce qu'on est usé, on ne meurt pas parce qu'on est tué. On meurt la destinée, la décidée, on meurt parce qu'on est. C'est même infernal. On meurt, c'est banal. Est-ce le point final? J'en sais rien, et ça m'est égal. Au lieu de fuir devant ce qui tous nous attend, savourons pleinement chaque instant. Être vraiment vivant,
être vraiment vivant,
rien n'est plus enivrant. On ne meurt pas parce qu'on est. On ne meurt pas parce qu'on est mourant. Soyons reconnaissants, car si on meurt, c'est parce qu'on est vivant. On ne meurt pas parce qu'on est usé. On ne meurt pas parce qu'on est tué. On meurt la destinée, la décidée. On meurt parce qu'on est né. C'est comme ça on meurt. Chacun son heure, à première vue ça peut faire peur. Je ne suis pas maître zen, je reconnais sans peine que l'idée me sert l'abdomen. Puisque c'est écrit, pourquoi pousser des cris quand il suffit de garder à l'esprit qu'être vraiment vivant,
être vraiment vivant,
rien n'est plus enivrant. On ne meurt pas parce qu'on est souffrant. On ne meurt pas parce qu'on est mourant. Soyons reconnaissants, car si on meurt, c'est parce qu'on est vivant. On ne meurt pas parce qu'on est usé. On ne meurt pas parce qu'on est tué. On meurt la destinée, la décidée. On meurt parce qu'on est. C'est comme ça, que ça te plaise ou pas, qui que tu sois, tu n'as pas le choix. À tort ou à raison, ne pas vivre est une option. Ne pas mourir par contre, non. Alors à quoi bon se faire du mouron? Allons-y, vivons et mourons. Être vraiment vivant,
être vraiment vivant,
rien n'est plus enivrant. On ne meurt pas parce qu'on est souffrant, on ne meurt pas parce qu'on est mourant. Soyons reconnaissants, car si on meurt, c'est parce qu'on est vivant.
Alain Chamfort sur Radio Plus. Et puisque nous parlons douleur et soins, justement, une devinette, tenez. Quel est le traitement qui, selon les cas, apaise ou stimule, se consomme sans modération ni risque d'effets secondaires, et facile d'accès, simple d'utilisation, toujours accessible et sans aucun risque de pénurie? Réponse: la musique. Qu'on l'écoute ou la pratique en solo ou en groupe, celle-ci nous fait incontestablement du bien. Et le magazine Sciences et Avenir de mai 2020 nous explique que c'est à présent un outil reconnu par l'OMS, c'est-à-dire l'Organisation Mondiale pour la Santé, qui peut être utilisé dans les hôpitaux pour apaiser ou stimuler. Et il paraît même, toujours d'après le magazine qui a fait son enquête, que la musique peut réparer le cerveau mais aussi réduire à la douleur.
D'une main médecine pour les douleurs citadines, c'est pas n'importe quoi, je l'ai essayé sur moi. Elle me vient d'insoucier, chercheur invétéré, expert en sources bénéfiques, d'où viennent toutes les sortes de musique. C'était un musicien de l'âme, et sans jouer d'aucun instrument, il faisait danser les mots comme les flammes d'un feu attisé par le vent. Il disait tout, tout est provisoire, il n'y a que l'amour gratuit qui dure. Au-delà du trou noir, l'amour est notre seul futur. C'est l'amour, notre seul avenir fertile, c'est l'amour.
Notre seul futur, disait-il,
c'est l'amour. Notre seul avenir fertile, c'est l'amour.
La parole est amour, la musique est amour, la beauté est amour, la poésie est amour, le rythme est amour, l'harmonie est amour. La chaleur est amour, la lumière est amour. L'eau est amour, l'animal est amour, le végétal est amour.
Bill de Rheim sur Radio Plus. Alors, la médecine pour les Amazoniens, voyez-vous, c'est dur, dur. Et on retrouve tout de suite Jean-Louis Ouatté, président de l'Étrême Nature. Eh oui, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. La solution ? Opter pour la force des passions et mener le combat nécessaire. Industrie, agriculture intensive, extraction minière et pétrolière, occupation illégale de territoire, la liste est longue. Et lors des deux dernières émissions, nous avons considéré avec beaucoup d'attention tous les effets néfastes de ces agressions sur l'Amazonie, sur sa biodiversité, son importance pour le climat mondial et bien sûr sur son peuple. Alors le terme écocide est de mise, mais certains n'hésitent pas à le coupler avec le terme ethnocide. Depuis que la pandémie du Covid-19 s'est installée. Un porte-parole emblématique accuse même le président brésilien Jair Bolsonaro de vouloir profiter du coronavirus pour éliminer certains peuples. On a vu la semaine dernière quelle est sa part de responsabilité dans la déforestation. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Martine.
La pandémie de Covid-19 est venue aggraver tous les maux que
subit l'Amazonie, fragilisant ses premiers défenseurs, les indigènes, et détournant l'attention mondiale pendant que les feux reprennent de plus belle. Alors, on se demande comment c'est possible, Jean-Louis, et comment le virus est arrivé jusque chez eux quand on sait que les habitants sont les plus isolés au monde.
Oui, alors, je voudrais quand même rappeler que bon, l'Amazonie, c'est quand même 75% à peu près le Brésil. On va parler beaucoup du Brésil, mais ça touche aussi le Pérou et d'autres pays, la Colombie. Donc, mais on va se concentrer sur le Brésil parce que c'est là que vraiment les problèmes sont cruciaux. Il faut savoir que le Brésil, avec sa population de 212 millions d'habitants, c'est le deuxième pays le plus touché au monde par la pandémie, avec près de 1 700 000 personnes infectées par le coronavirus, et ça a tué plus de 68 000 personnes. Donc c'est aussi, le Covid-19, c'est aussi une nouvelle menace pour les peuples indigènes, déjà fortement affectés par la déforestation qui n'a cessé d'augmenter. Alors il faut savoir qu'ils sont 900 000 à être répertoriés comme autochtones et membres de l'un des 300 peuples qui vivent majoritairement en Amazonie. Et on estimait fin juillet, donc 2020, que près de 30 000 indigènes avaient été contaminés par la Covid-19, dont 1100 sont morts. Donc le taux de mortalité chez les autochtones, il faut savoir qu'il est le double du taux moyen constaté au Brésil pour le Covid-19. Donc régulièrement, on apprend le décès d'un chef autochtone. Et malheureusement, avec ces figures historiques, bah, ce sont toutes les connaissances, les savoirs des peuples qui sont en train de disparaître. Alors la présence des forestiers, des mineurs, des employés de fermes de bétail déclenche justement cette chaîne de contamination. Et puis aussi les dizaines de milliers de chercheurs d'or, c'est des transmetteurs potentiels du Covid-19 à une population dont les immunités sont réputées faibles. Et il faut savoir aussi qu'au niveau sanitaire, c'est vraiment le chaos total. Hein. Si on prend l'exemple de Manaus, hein, le district sanitaire pour les indigènes a confirmé que de nombreux patients qui étaient traités pour d'autres maladies ont été contaminés au centre sanitaire, ainsi que dans les hôpitaux d'État et municipaux, puis sont retournés dans leur village. Hein. Donc les hôpitaux étaient au maximum de Manaus, étaient au maximum de leur capacité. Et maintenant, la situation est de plus en plus critique. Il faut savoir que aussi les distances sont considérables. Hein. Le seul hôpital qui dispose d'une unité de soins intensifs en dehors de Manaus se trouve dans la ville de Tefé, à 522 km de la capitale. Donc c'est un problème important et qui crée des situations catastrophiques.
Tout à fait. Oui, ça fait quand même un petit peu loin pour se soigner, n'est-ce pas?
Ben voilà.
Alors, et c'est là qu'on constate malheureusement qu'il y a risque d'ethnocide avec disparition de plusieurs communiqués, car ce n'est pas vraiment facile de se faire soigner justement en pleine jungle, vous venez de le dire. Je suppose aussi, Jean-Louis, que leurs traitements sont tout à fait dérisoires.
Oui, donc faut savoir que les peuples autochtones ont un système immunitaire plus faible que les autres pays, les autres peuples d'Amérique latine. Mais ils sont pas prêts justement à faire face à ce virus. N'oublions pas que 120 peuples vivent en isolement volontaire, ce qui accentue la faiblesse de leur système immunitaire. Donc, et pour ne pas dépendre du système de santé publique brésilien, souvent saturé et défaillant, les autochtones ont recours à leurs connaissances ancestrales. Donc certaines tribus ont traité tous les symptômes ressentis avec des remèdes qu'ils ont préparés eux-mêmes, comme leurs ancêtres l'ont appris avec des infusions à base d'écorce d'arbres. Bon, je ne vais pas vous donner les noms, mais certains ont des vertus anti-inflammatoires, d'autres aussi ont des vertus sont utilisées habituellement pour le traitement du paludisme. Donc connaissances ancestrales, mais qui répondent difficilement aux problèmes posés par la pandémie.
Alors justement, vous en parliez tout à l'heure, mais on va citer Greenpeace Brésil qui dénonce aussi la venue des orpailleurs, hein, c'est-à-dire des chercheurs d'or, on précise, qui opèrent sur ces terres parce que bien évidemment ce sont des transmetteurs potentiels, vous en avez parlé. En plus, ils sont encouragés par le président Jair Bolsonaro, encore lui.
Oui, les dizaines de milliers de chercheurs d'or sont, on l'a dit, autant de transmetteurs potentiels du Covid-19, à une population dont on vient de dire que les immunités sont réputées très faibles. Mm. Bah, si on prend un peuple, par exemple, les Yanomami,
oui.
Le premier danger vient justement de ces orpailleurs clandestins qui font régulièrement des intrusions sur leur territoire où vivent quelques 27 000 indigènes sur 96 000 km², donc à la frontière entre le Brésil et le Venezuela. Et selon les ONG, environ 20 000 chercheurs d'or opèrent sur ces terres. Donc encouragés par les projets du président, justement Bolsonaro, qui veut intégrer ces zones à la modernité. Mmh. Donc ces orpailleurs sont vraiment des transmetteurs potentiels, hein, comme le dénonce Greenpeace Brésil. Et selon l'Université fédérale de Minas, eh bien 40% des Yanomami vivant à proximité de ces zones d'orpaillage pourraient contacter le coronavirus si aucune mesure n'est prise.
Mmh. Alors justement, je parlais de Jair Bolsonaro, mais Jean-Louis, les dirigeants brésiliens ont-ils mis en place une stratégie pour enrayer cette pandémie et protéger ces différentes ethnies? Et d'ailleurs, y a-t-il d'autres initiatives qui sont prises aussi à côté?
C'est une idée reçue puis qui est véhiculée par le président brésilien que tous les indigènes vivent au fond de la forêt amazonienne. Et que donc ils sont protégés par leur isolement, ce qui est complètement faux puisque on sait très bien que la disparition les incendies de forêt, les chercheurs d'or, etc., il y a des contacts qui existent, hein, donc et puis aussi il faut savoir en fait quand même que la majorité de la population est en contact avec une agglomération, pour certains pour travailler, d'autres pour échanger des produits. Donc il faut savoir que le président a ouvert les portes de l'Amazonie à l'agro-business, hein, aux industries extractives, aux orpailleurs, aux forestiers. Donc il l'a fait beaucoup plus que ses prédécesseurs. Et dans ces conditions, il faut savoir que les indigènes qui habitent ces zones sont considérés comme des gêneurs. Donc les dirigeants indigènes qui sont quand même organisés, hein, en village, avec des chefs, etc., de tribus, ont demandé à l'État d'adopter des mesures urgentes pour protéger la population contre les conséquences dévastatrices de cette crise, dont l'ampleur est difficile à prévoir. Et faut savoir que quand même, au mois de juillet, le président Bolsonaro a opposé son veto à des lois qui auraient obligé le gouvernement à fournir aux indigènes un accès à l'eau potable, à des lits de soins intensifs spécialement réservés dans le cadre de la pandémie et à la distribution gratuite de produits de première nécessité. Donc il a rétorqué que cette initiative entraînerait des dépenses supplémentaires qui sont contraires à l'intérêt public. Savoir que l'Institut socio-environnemental, qui est une organisation non gouvernementale qui est spécialisée dans les questions environnementales et sociales, a qualifié cette décision du chef de l'État brésilien de criminel.
Tout à fait. C'est là que j'allais vous dire que le terme ethnocide prend toute sa valeur.
Tout à fait.
Alors justement, les écologistes craignent que la protection de la forêt soit délaissée aussi en raison de la lutte contre le Covid-19. Et en effet, comme nous l'avons déploré la semaine dernière, la déforestation s'accélère à vitesse grand V.
Faut savoir que la forêt amazonienne est encore et toujours en recul. La déforestation a atteint au premier semestre 2020 un record avec plus de 25% dans les chiffres qui ont été publiés par l'Institut national de recherche spatiale. Et c'est surtout la partie brésilienne de l'Amazonie qui est concernée, hein, avec plus de 3000 km² de forêt qui ont disparu. Donc ça s'est vraiment encore bien accéléré. Il y a des réactions. Plusieurs investisseurs étrangers menacent de tourner le dos au Brésil, faute de résultats tangibles en matière d'environnement. Mais on attend pour voir.
Alors, la semaine dernière, Jean-Louis, vous nous avez dit que nous pouvions tous faire quelque chose à la fois pour épargner l'Amazonie et sa forêt vitale pour tout le monde et nous transformer donc en petits colibris. En effet, nous n'avons pas envie de rester les bras croisés face à ce désastre et la moindre de nos actions aura un impact. Alors, rappelez-nous très vite fait ce que l'on peut faire, car pour l'instant, on ne peut pas éliminer Jair Bolsonaro, n'est-ce pas?
Eh non. Donc, Alors c'est vrai que le Brésil, l'Amazonie, ça paraît très loin. Je pense que ce qu'il faut, faut en parler beaucoup, ce qu'on fait actuellement, il faut en parler autour de nous. Il faut soutenir les ONG qui luttent justement pour sauvegarder cette région du monde et puis ces populations qui sont menacées donc par la pandémie, qui sont menacées par la déforestation. Et donc, je pense, on avait parlé tout à l'heure de Greenpeace, il y a le WWF, et puis il y a d'autres organismes qui se battent justement pour sauvegarder cette région du monde qui est fondamentale. Et donc, je pense qu'il faut les soutenir. Et puis, il faut faire ses choix quand on le peut, faire des choix, faire attention à ce qu'on consomme. Mais je pense que en parler, c'est fondamental autour de nous pour que les politiques prennent conscience qu'il faut qu'ils agissent sur ce sujet.
Donc un appel est donc lancé à la coopération et au dialogue pour réveiller la conscience et l'action de nous tous sans discrimination contre un système qui tue moralement, spirituellement et physiquement la région amazonienne. Jean-Louis, merci pour nous avoir sensibilisé à ce problème. On se dit à lundi prochain.
À lundi prochain et bonne semaine à tous.
Très très bonne semaine à vous.
Y a une veuve noire aux senteurs de curiri et de curare. Moi je suis le pygmée mémé de cette pygmette au tout tout petit néné en amulette. Dans mon Amazonie, Oni, qui mal y pense, au tam-tam du soning, soning, je la regarde qui danse. Je deviens loup de mer, mémé, dans sa baignoire. Sous sa douche, je me perds, pépère, dans des mers noires. Dans mon Amazonie, Yanni, serpent ni fauve, quel en catimini, mini, dans mon alcôve. Dans mon Amazonie, Nenni, forêt zouliane. Le secret taillé à lui de sous son pagne. Dans mon Amazonie, on y dort une sirène aux dents en grains de riz qui rit à peau d'ébène, au sein à peine éclos. Lolo, bouton de rose, les cueillir de mes crocs, oh oh, à peine rose.
Ah oui, un bouton de rose. Respect des arbres, respect de la terre et de l'environnement. Tout de suite avec nous, Bertrand Trinel, président de l'Association des paysages, des jardins et des hommes.
Il y avait un jardin qu'on appelait la terre.
Ah, la Saint-René, couvre ton nez. Alors c'est vrai qu'il ne fait pas très chaud, mais le soleil est là. Alors bien sûr, oui, on se couvre le nez, et pas seulement d'ailleurs. Et on descend au jardin. Bonjour Bertrand.
Bonjour Martine, et bonjour aux auditeurs. Et oui, on descend au jardin,
pour ça nous redonne de l'énergie et oui. ça nous ressource.
Tout à fait, ça c'est vrai. Oui, oui. Ce jardin d'ailleurs qu'on n'hésite pas à égayer d'ailleurs et auquel nous allons rendre les couleurs grâce aux fleurs, pensées, primes vert et bruyères, en pleine terre ou en pot, hein, pourquoi pas.
Oui, alors effectivement, on s'imagine toujours que l'automne est une saison un peu triste. Hein. Moi je pense qu'il n'en est rien. Hein. Il n'y a qu'à regarder la palette de couleurs que nous offrent certains arbustes, certains arbres en cette saison. C'est de toute beauté. Alors même si c'est éphémère, c'est franchement magnifique. Et puis il y a bien sûr toutes les fleurs que vous venez de citer, hein, qui vont égayer un parterre et que vous pouvez forcément mettre en pot. Hein, ça adapte très bien dans un pot ou encore fleurir vos jardinières. Mais il y en a bien d'autres hein, qui vous régaleront lors de vos sorties au jardin. Par exemple les élébores, les anémones du Japon qui sont encore en fleur en ce moment, les élébores qui fleuriront en janvier. Et puis, mais il y en a une qui me plaît beaucoup en ce moment, ce sont les chrysanthèmes. Alors, il en existe certaines variétés qui sont bien vivaces, et en ce moment, ce sont des couleurs chatoyantes dans le jardin, c'est magnifique, elles sont superbement belles. Mmh. Alors, même si la nature s'endort, si les feuilles tombent, le jardin peut encore nous réserver de vraies merveilles, hein, notamment avec les bruyères également.
C'est vrai que c'est beau, des bruyères, et en plus, c'est facile à vivre, et puis c'est persistant.
Oui, tout à fait. Et puis, il y a de très nombreuses variétés de bruyères. Alors, celles dont je voudrais parler aujourd'hui, par exemple, ce sont les bruyères d'automne, la bruyère commune, la Calvina vulgaris. Alors, c'est une superbe plante tapissante, très facile à cultiver, à la floraison très abondante et très longue, et comme vous le dites, le feuillage est persistant, d'où son intérêt au jardin. Mmh. Hein. On en trouve maintenant toutes sortes de coloris, hein, pas toutes sortes quand même, pas des bleus, des violettes, mais des roses, des rouges, des blanches. Beaucoup de coloris qui apportent des touches de couleur au jardin. Alors, on recommande souvent de les planter au printemps, mais vous pouvez bien sûr les mettre en terre maintenant, hein, y a pas de problème. La bruyère est une plante typique des terres acides, donc il faudra donc faire un apport conséquent de véritables terres de bruyère. Un véritable terre de bruyère, un mélangé à un tiers de terre de jardin et à un tiers de terreau. Alors certains vont même ajouter du sable de rivière parce que la bruyère aime les sols drainants et les sols pauvres. Alors préférez la véritable terre de bruyère à la terre dite de bruyère, hein, parce qu'elle est bien meilleure. Et puis plantez vos bruyères en exposition ensoleillée ou à la mi-ombre. Et puis surtout, après la floraison, vous n'oubliez pas de tailler légèrement. Vous enlevez quelques centimètres, hein, tout ce qui a fleuri, vous l'enlevez pour leur conserver un port bien compact. Alors, si vous faites comme ça, vous allez profiter de vos bruyères pendant de nombreuses années.
D'accord. Alors, en parlant de conseils, justement, la semaine dernière, Bertrand, vous nous avez conseillé de mettre en terre, durant ce mois d'octobre, les bulbes pour profiter des belles printanières que vous nous avez citées. D'ailleurs, et en effet, elles sont nombreuses, là aussi. Mais dites-moi, faut-il préparer le sol ?
Alors, c'est vrai que parmi les premières fleurs de printemps, il y a de nombreuses plantes bulbeuses comme les personnages, les crocus, les jonquilles, les tulipes, etc. Tout ce qu'on avait parlé la semaine dernière. Alors, pour préparer le sol, il faut obtenir une bonne terre bien humifère. Donc, si votre sol est argileux, vous allez apporter un peu de sable pour alléger un peu tout ça et ajouter un bon compost. Alors, attention parce que la plupart des bulbes ont horreur de l'humidité. Donc, il faut un sol drainant. Il leur faut donc un sol bien drainant, comme je viens de dire. Et puis, quand vous allez choisir vos bulbes, si vous pouvez choisir les bulbes de gros calibre, vous obtiendrez une bien meilleure floraison. Alors sans doute c'est sans doute un peu plus coûteux à l'achat, mais vous n'allez pas être déçu. Alors c'est important également de penser à la profondeur de plantation. Ce sera environ 3 fois le diamètre du bulbe. Alors si vous avez un bulbe qui fait 3 cm de diamètre, il faudra le mettre à peu près à 10 cm de profondeur. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, donc je vous souhaite une bonne plantation.
D'accord. Et justement, alors, et puis Bertrand, avez-vous une astuce pour que ces bulbes ne soient pas attaqués par certains rongeurs ?
Ah oui, donc c'est vrai que certains bulbes ne sont pas du tout attaqués. Hein. Les narcisses, les tritillaires, tout ça, ils ne vont pas tirer les rongeurs. Hein, mais le campagnol, par exemple, aime bien d'autres bulbes, par exemple, comme les bulbes de tulipes, hein, qui sont un méchouot pour eux. Ils vont vous retrouvez plus vos tulipes au bout d'un an, forcément ils ont été dévorés par les campagnols, donc vous les voyez pas fleurir. Donc il est donc conseillé d'être placé dans des petites corbeilles protectrices qui sont prévues à cet effet, ou si vous n'achetez pas de corbeille, vous avez un bout de grillage, vous bricolez une protection avec un morceau de grillage que vous enterrez avec le bulbe, et puis là il n'y a pas de problème, bien sûr il faut essayer une ouverture en haut, et là il n'y aura pas de problème avec les campagnols ou avec d'autres rongeurs.
Alors, comme chacun sait, comme vous aimez nous le rappeler, Bertrand, c'est également le moment des plantations d'arbres et d'arbustes. Vous nous redonnez quelques conseils basiques, mais ô combien importants pour bien planter là aussi ?
Oui, bon,
Alors, c'est vrai qu'on peut commencer les plantations maintenant, hein, on peut les faire tout l'hiver, mais pour les arbustes à feuillage caduc, c'est mieux maintenant, parce que ils auront le temps de bien s'implanter, de faire les racines pendant l'hiver, et au printemps, vont mieux démarrer. Donc, vous préparez un grand trou de plantation. Alors, on ne dira jamais assez, hein, plus le trou sera grand, et plus la terre sera bien aérée, et plus la plante va s'épanouir. Il faut vraiment faire un très grand trou, bien casser les mottes, remettre les couches de terre au même endroit, hein, pas inverser les couches de terre surtout, mais aérer. C'est l'aération de la terre qui va faire que vous aurez de belles plantes. Alors pour les plantes en mottes, vous allez tremper le pot dans l'eau pendant environ 20 minutes, hein, avant la plantation. Ensuite, vous enlevez la motte du pot, vous démêlez délicatement les racines pour qu'elles puissent s'étaler dans toutes les directions. Si vous plantez des fruitiers, surtout n'enterrez pas le point de greffe. Si vous enterrez le point de greffe, ça va faire des racines, le greffon va faire des racines, et ça va devenir un franc, et vous aurez un arbre hyper vigoureux. Alors si vous vouliez un espalier, vous allez avoir un arbre qui va faire du bois, puis vous n'aurez pas de fruits. Mmh. Alors, ne mettez pas non plus dans le trou de l'engrais azoté, ni d'autres engrais d'ailleurs au moment de la plantation, ni de compost au fond du trou, les racines n'apprécient pas du tout. Par contre, vous pouvez jeter une petite poignée d'avoine, ou autres céréales au fond du trou. En germant, elles vont délivrer des hormones de croissance qui vont être profitables à la plante. Alors, pour les plantes à racines nues, vous coupez toutes les racines qui sont abîmées, hein, une coupe franche au sécateur, et puis vous les pralinez. Alors, le pralin, c'est quoi? Alors, dans le temps, nos grands-parents préparaient leur pralin avec de la bouse de vache, hein, qui contient beaucoup d'hormones de croissance, et ils mélangeaient cette bouse de vache avec de l'argile, et puis de l'eau, ça faisait une pâte onctueuse. Ils trempaient les racines dedans et les racines étaient enrobées de ce pralin. Et ça permettait d'avoir des hormones de croissance et de pousser mieux. Bon, la bouse de vache est beaucoup plus difficile maintenant à en trouver. Donc si vous n'avez pas de bouse de vache, vous pouvez déjà faire un mélange onctueux avec de l'argile et de l'eau et tremper vos racines dedans. Vous pouvez ajouter un peu d'algues marines, hein, dedans, qui est pas plus mal. Hein. Surtout, vous coupez les branches qui sont abîmées, les branches qui sont mal placées, afin de bien équilibrer l'arbre. Mmh. Et puis vous plantez. Et seulement ensuite, vous allez au sol, vous allez mettre un bon compost en surface. Vous épandez un bon compost en surface. Là, les racines vont pas pourrir et ça va descendre tout doucement pour nourrir la plante. Et puis, n'oubliez pas de mettre un tuteur, hein, si vous êtes, s'il y a du vent ou autre chose, voilà.
D'accord. Et puis bon, bah très très vite, l'été se termine et on commence à penser à nos amis les oiseaux, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Les oiseaux sont des bons auxiliaires du jardinier, mais malheureusement, on en a déjà parlé, leur population diminue à vitesse grand V. Alors pensez à les aider à passer cette période de froid hivernal en les nourrissant. Surtout, alors on ne répétera jamais assez, surtout pas de pain.
Hein,
mais des graines variées, de la graisse, par exemple du beurre, de la margarine, et tout ira bien pour eux.
Bien sûr. Bertrand, merci. Comme vous dites, tout ce qu'on partage, c'est vous qui dites ça, hein, tout ce qu'on partage fleurit, tout ce qu'on garde pour soi moisit. Alors, merci de partager avec nous votre technique et façon de faire. Et on se dit à lundi?
Oui, tout à fait, à lundi.
Très, très bonne semaine à vous, Bertrand.
Merci,
et à lundi.
Bonne semaine à tout le monde. Hein. Au revoir.
De plastique en poussière. Si tu plantes un Twix dans la terre, il ne poussera rien que la poussière. Si tu plantes un Mars dans ta serre, si tu plantes un Mars, un Mars en serre. Si tu plantes un Mars dans ta serre, si tu plantes un Mars en serre, il ne poussera rien, poussera guère que le champ de Mars, un champ de guerre. Si tu plantes un Mars dans ta terre, il ne poussera rien qu'un champ de guerre.
Camille sur Radio Plus avec un titre qui s'inscrit sur un rythme de Congo dans le traditionnel de Gascogne. C'est aujourd'hui, figurez-vous que c'est aujourd'hui la journée mondiale contre la douleur. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille, écrivait Charles Baudelaire, s'adressant à sa souffrance comme à une personne, en mettant ainsi en valeur la complicité et l'intimité qui les lie. Chaque troisième lundi du mois d'octobre est célébrée la journée mondiale mondiale contre la douleur. Selon l'Association internationale pour l'étude de la douleur, c'est-à-dire l'IASP, une personne sur cinq souffre de douleurs chroniques modérées à fortes dans le monde, et la douleur rend une personne sur trois incapable ou difficilement capable de mener une vie indépendante. Par ailleurs, une personne sur quatre rapporte que la douleur perturbe ou détruit ses relations avec sa famille et ses amis. Docteur Guy de Rognecourt, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Alors, je suppose qu'en tant que médecin, vous êtes bien souvent trouvé en présence de personnes confrontées à la douleur. C'est quelque chose de complexe, docteur, car il y a celle qui est là, quelquefois aiguë, mais qui est de courte durée. Et puis, il y a celle qui s'installe et qui dure et qui devient chronique.
Effectivement, la douleur aiguë, elle disparaît, elle est très courte. L'exemple, c'est une piqûre, c'est une brûlure discrète, hein, c'est un coup quand on se bagarre, par exemple, hein, mais qui ne dure pas. La douleur chronique, elle dure depuis 3 à 6 mois, malgré les traitements proposés, et même si la cause peut avoir disparu. Cette douleur chronique est souvent d'ordre neurologique. On appelle ça une douleur nociceptive. Elle peut venir soit de l'extérieur, soit de l'intérieur du corps. Elle peut venir des nerfs qui sont en tension, c'est une douleur neuropathique. Elle peut être d'ordre augmenté par le psychisme. Elle est d'ordre émotionnel et psychiatrique. On la traite, vous savez bien, par les antidépresseurs ou les neuroleptiques. Alors, il faut savoir que c'est une cytokine, c'est-à-dire une hormone issue des amygdales cérébelleuses qui provoque la douleur, qui l'entretient. Elle est majorée souvent par des mutations génétiques, et vous avez l'exemple que tout le monde connaît, c'est la fibromyalgie.
Alors, justement, la douleur chronique touche quand même 12 millions de nos concitoyens. C'est dire que cette journée mondiale contre la douleur, qui a comme objectif principal de faire savoir au grand public qu'il ne doit plus avoir peur de l'exprimer, qu'il doit consulter et surtout de demander une prise en charge adaptée, est importante. Mais docteur, est-ce que le corps médical est bien formé à la gestion de la douleur? Et puis surtout, celle-ci est-elle bien reconnue? Car finalement, c'est un symptôme qui ne se voit pas.
Oui, alors ça ne se voit pas, mais ça se ressent. Et heureusement, de plus en plus, on sait, je dirais, apprécier et faire codifier la douleur. Il y a des échelles de douleur. Quand vous rentrez à l'hôpital pour une pathologie X, l'infirmière vous donne une échelle de cotation, souvent de 1 à 10. Il faut aider à la reconnaissance de la douleur et parfois la calmer quand on fait des examens médicaux. C'est pourquoi certains examens ont lieu sous anesthésie locale ou générale, donc on reconnaît bien la douleur, on sait qu'on peut provoquer des douleurs en faisant des examens. Par exemple, quand on fait un pansement ou des soins, on dispense parfois du gaz calmant. Et quand on fait des piqûres, l'infirmière qui vient chez vous faire une piqûre, elle vous dit une demi-heure avant de mettre une pommade qui s'appelle MLA. Alors, sinon, on utilise les antalgiques en préventif. Il existe aussi des centres de la douleur, des consultations de la douleur qui est générée par plusieurs spécialistes. Enfin, on peut faire un contrat de prise en charge de la douleur. Je le répète, vous l'avez dit, la douleur ne se voit pas, mais elle s'évalue, et maintenant le corps médical sait le faire.
Mais alors, vous parlez de prise en charge, justement, cette prise en charge de la douleur dans notre pays est-elle suffisante?
Alors, l'ARS, l'Agence régionale de santé, a édicté des normes, a même créé un concours d'innovation pour aider à découvrir la douleur. Et vous l'avez dit, je le répète, 12 millions de Français souffrent de la douleur, 30% sont bien traités, mais l'égalité est tout à fait variable dans la douleur. Il y a une variabilité de 60% des gens qui ressentent la douleur. C'est d'ordre génétique souvent, et ça dépend aussi de la réponse à chaque traitement. Il y a des facteurs psychiatriques, sociaux, environnementaux, c'est difficile à dire, et génétiques. Si je veux être savant, je vais vous dire qu'il y a deux chromosomes, le 2 et le 9, qui libèrent une anomalie au niveau, mais je ne vais pas le dire, des détails, d'un certain bras de ces chromosomes. D'où l'idée, dans l'avenir, et même déjà maintenant, d'une thérapie génique, d'utiliser l'électrothérapie Et vous savez qu'une dame française vient d'avoir le prix Nobel parce qu'elle a créé les ciseaux moléculaires.
Oui. Oui, oui, on sait, docteur. On te sait. Voilà. Alors, bon, donc, ça veut dire que c'est vrai que c'est pas toujours facile pour un praticien d'évaluer la douleur chez son patient. Donc, vous venez de le dire un petit peu, nous ne sommes pas tous égaux devant elle. Et justement, alors, y a-t-il une différence de sensibilité entre les hommes et les femmes?
Oui, alors, jusqu'à l'adolescence, non. Mais à partir de l'adolescence, les femmes deviennent plus sensibles. C'est une question de sexe, une question de genre. Le sexe, c'est la biologie qui est différente. Le genre, c'est les phénomènes sociétaux. Donc, les femmes sont plus sensibles, sauf certaines exceptions. La maladie douloureuse articulaire ou goutteuse, les céphalées, l'ulcère gastro-duodénal, je vous rappelle, je suis gastro-entérologue, la pancréatite, celles-là sont ressenties de manière identique, je dirais, chez l'homme et chez la femme. Il y a des facteurs aussi qui augmentent la sensibilité et différencient la douleur, c'est la maltraitance, c'est l'origine hormonale de la maladie et du cycle hormonal pour ressentir la maladie, et vous savez qu'il y a des conséquences dans un couple, la femme va être attentive à la douleur de l'homme, l'homme, excusez-moi, est moins sensible, plus indifférent, et lui va y travailler même si sa femme a la mal.
D'accord, mais ne vous excusez pas, docteur, on le sait, ça. Et d'autre part, je pensais que c'était le contraire, parce qu'on dit toujours qu'un homme ne supporterait pas un accouchement.
Donc, oui, bon. Disons que c'est psychologique, là.
Oui, d'accord. Voilà. Alors, pensez-vous, vous aussi, que la douleur chronique devrait être considérée comme une maladie en tant que telle?
Oui, la douleur chronique, je l'ai définie tout au début, oui. C'est une affection de longue durée de plus de 6 mois. Donc, c'est un état pathologique de nature physique, psychique et cognitive qui dure, qui retentit sur la vie quotidienne fortement et peut perturber donc l'activité professionnelle, etc.
Alors, bien sûr, docteur, on ne peut pas citer ici tous les traitements de la douleur, hein, vous en avez donné un petit peu tout à l'heure, mais ce n'est pas le but, et d'ailleurs, nous n'en avons pas le temps. Alors, nous savons que la médecine traditionnelle et les médicaments allopathiques peuvent endiguer la douleur, mais de nombreux patients traités ne sont pas suffisamment soulagés, et la prise de médicaments n'est jamais anodine. Nombreux effets secondaires, risques d'addiction ou d'accoutumance. Alors, que pensez-vous de la médecine alternative dite douce, mentionnant de nombreuses thérapies qui bien souvent ont fait leur preuve contre la douleur? Alors, pour en citer quelques-unes, il y a par exemple la phytothérapie, la méditation, en passant par l'acupuncture, la thermothérapie ou encore l'électrothérapie, ou autant de méthodes qui finalement affirment permettre de faire face à cette fameuse douleur.
Oui, alors j'y crois de plus en plus et je m'y intéresse de plus en plus, même j'apprends, hein. Et vous savez que les antalgiques majeurs entraînent, comme vous l'avez dit, une addiction et une destruction, je dirais, du mental et du cérébral. J'ai donné quelques exemples. Si vous avez des douleurs d'arthrose, il faut prendre de la Golterie. Si vous avez des douleurs musculaires, il faut prendre du lavandin. Si vous avez des céphalées, il faut prendre de la camomille romaine. Si vous avez des douleurs atypiques, il faut prendre de l'épinette noire. Vous savez que certains médecins physiques, certains kinésithérapeutes utilisent les aimants pour les douleurs locomotrices. En digestif, vous connaissez le bicarbonate de soude.
Bien sûr.
Enfin, vous pouvez aller voir l'acupuncteur qui va vous faire des aiguilles ou qui va vous faire de l'acupression avec ses pouces, son index. C'est le do-in. Enfin, la médecine asiatique, chinoise, indienne, ayurvédique utilise le qigong, qui utilise l'énergie, la posture et la respiration. Vous voyez, il y a plein de choses. Enfin, je vais aller vite, je vais terminer. L'alimentation joue un rôle dans l'équilibre de la douleur. Les probiotiques, j'y crois fortement, empêchent la douleur digestive, ainsi que les huiles essentielles. Enfin, on peut se faire opérer par musicothérapie, par hypnose, pour pas avoir mal. Enfin, il existe aussi les cures thermales de balnéothérapie. Et j'ai terminé, parce que ça, c'est de plus en plus aussi maintenant, on y pense, c'est ce qu'on appelle l'électromodulation. On met des stimulateurs avec des fils qui vont joindre les racines sacrées au niveau du petit bassin ou au niveau médulaire, au niveau de la vulmaire. Voilà, vous voyez que la douleur maintenant, la douleur, on ne va pas dire qu'elle n'existe plus, elle sera toujours là. Mmh. On peut l'appréhender, on peut la soigner et on peut l'équilibrer. Voilà. Merci de m'avoir écouté.
Docteur de Regnaud-Court, c'est nous qui vous remercions. Et à bientôt sur cette antenne.
À très bientôt et avec plaisir.
Merci docteur.
Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville, aux uns portant la paix, aux autres le souci. Pendant que des mortels, la multitude vile, sous le fouet du plaisir, ce bourreau sans merci va cueillir des remords dans la fête servile. Ma douleur, donne-moi la main, viens par ici, loin d'eux. Vois se pencher les défuntes années sur les balcons du ciel, en robe surannée, surgir du fond des eaux le regret souriant.
Et on se retrouve, si vous le voulez bien, pour une autre édition de l'Air du Temps lundi prochain. À suivre là maintenant tout de suite Kaléidoscope avec sa musique et ses chansons pour nous détendre. Et j'espère pouvoir vous dire donc à tout de suite.
Artisans, commerçants, si vous écoutez ce message, c'est que vos futurs clients l'écoutent.